je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Ce mois-ci, dans un brin d'histoire, j'ai voulu vous parler d'un personnage de notre territoire, Jean-François Champollion, dit le Jeune, auquel nous devons l'histoire de l'Égypte ancienne. Champollion est né à Figeac, dans le Lot, le 23 décembre 1790. Il est le fils d'un libraire, et donc on peut dire qu'il naît dans les livres. Doué d'une intelligence hors du commun, il apprend seul à lire à 5 ans, dans son missel. Voyez, il déchiffre déjà. Son frère aîné est passionné de philosophie et d'archéologie. Il l'amène avec lui à Grenoble. Il n'a alors que 11 ans, et à cet âge-là, il connaît parfaitement le grec et le latin. Être d'exception, il apprend l'hébreu pour son plaisir. Étonne son frère et ses professeurs. Il rencontre Jean-Baptiste Fournier, qui est un physicien et mathématicien, qui est allé en Égypte avec Bonaparte en 1799 et qui a ramené des antiquités, des papyrus, des hiéroglyphes indéchiffrables. En les observant, Champollion dira « Moi, je les lirai dans quelques années quand je serai grand. » Il est déjà amoureux de l'Égypte. À 12 ans, il écrit son premier livre. À 13 ans, il commence à apprendre l'arabe, le syriaque, le chaldéen. Il décide de maîtriser le copte, car il représente la seule survivance fruste de l'égyptien antique. C'est encore un collégien. Dans les milieux scientifiques, on pense qu'il y a un rapport entre l'Égypte ancienne et le chinois ancien. Alors, il commence à étudier le chinois ancien. Il aborde la langue zend, le pahlavi, le parsi. Il réunit ainsi une documentation très importante. Jean-François est doté également du génie de la classification et de l'organisation. Afin de réaliser des études plus solides, Jean-François doit poursuivre à Paris. Avec son frère, les voilà partis en diligence pour 70 heures de trajet, pendant lesquelles le jeune homme rêve de papyrus jaunis, des pierres couvertes de hiéroglyphes. La pierre de basalte noir, qui est une copie de la pierre de Rosette, l'obsède. Pour de telles études, seul le Collège de France peut convenir. Son frère, lui, repart pour Grenoble et Champollion va vivre une grande solitude. Séparé de son frère dans sa chambre d'étudiant, le soir, il pleure. L'étude et le travail seuls l'absorbent. Entre les cours au Collège de France, il passe de longs moments à la Bibliothèque nationale. Là, il y consulte des textes coptes. Fournier, le professeur, est attentif à ses travaux. Il lui présente des personnalités travaillant à la publication des ouvrages sur l'Égypte, comme Jomard. Mais Champollion est en désaccord avec Jomard. il existe à Paris des coptes, dont Raphaël de Monachis, moine qui s'est rallié à Bonaparte lors de la campagne d'Égypte. À leur contact, ils parlent leur langue, aussi bien que le français et l'arabe. En 1807, il termine un ouvrage sur l'Égypte des pharaons. Il n'a que 17 ans. Il fait la connaissance de Sylvestre de Sacy, grand archéologue qui préface son livre et approuve ce qu'il écrit. Une profonde impression pour ce jeune étudiant. Sacy reconnaît son échec à la découverte du secret des hiéroglyphes, qui se révèle de plus en plus opaque. Mais retournons quelques 10 ans à l'arrière. En 1798, Bonaparte, mandaté par le Directoire, avait amené en Égypte des spécialistes de toutes les disciplines pouvant contribuer à une meilleure connaissance de l'Égypte ancienne. Il avait demandé au grand mathématicien Monge de réunir une commission de savants, d'artistes, afin de l'accompagner avec son armée. Monge s'est entouré des plus grands spécialistes français, venant de Polytechnique Centrale, Normale, Conservatoire des Arts et Métiers, École des Ponts et Chaussées, Muséum d'Histoire Naturelle, astronomes, dessinateurs, journalistes, peintres, écrivains, linguistes, médecins et économistes, pharmaciens, imprimeurs, chimistes, archéologues, etc. etc. Quelques 175 savants et élèves. La France tout entière se fascine alors pour l'Égypte en cette fin du XVIIIe siècle. Jusque dans les opéras, Bonaparte lui-même est obsédé par le mystère de ce pays. Le but militaire du Directoire était de couper la route des Indes aux Anglais. Cette expédition ne sera pas un grand succès militaire. Après la conquête du pays, la flotte française sera détruite à Aboukir par les Anglais. Et les Anglais, bien sûr, s'empareront de notre découverte essentielle, la pierre de Rosette, qui partira pour Londres. La pierre, d'ailleurs, avait été trouvée par un soldat français, Xavier Bouchard, dans les fortifications de la ville de Rosette. Les Anglais reprendront cette ville en 1801, emportant donc ce précieux trésor. Les médias ne parleront pas des déboires causés en Syrie par nos soldats et des nombreuses pertes dues aux guérillas. Bonaparte quittera l'Égypte, laissant Kléber terminer les affrontements. Il sera néanmoins accueilli en France comme un grand vainqueur. La campagne d'Égypte sera surtout une grande victoire scientifique. L'expédition va remonter jusqu'à Assouan. Tout va être cartographié, dessiné. Cela aboutira à un ouvrage sans précédent et jamais égalé. La description de l'Égypte en 24 volumes, publié de 1809 à 1813, et rédigé par Jomard, celui-là même avec lequel Champollion a des avis différents sur la vision de l'Égypte ancienne. Sur le terrain, les imprimeurs français avaient créé une revue, Le Courrier d'Égypte, qui paraîtra en Europe et qui signalera cette découverte, la pierre de Rosette, par les Français. La pierre de Rosette est l'élément essentiel qui va permettre 20 ans plus tard la découverte de la signification des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Mais avant, en 1808, Champollion loge sous les toits. Il court les bibliothèques. Il reçoit de l'argent de son frère, qu'il appelle depuis l'enfance Figeac. Le jeune homme mange peu. L'hiver qui suit est glacial et Champollion ressent les premiers signes de la tuberculose. Ceci d'ailleurs le dispensera du service militaire. Certains bruits à Paris annoncent que Lenoir a découvert la signification des hiéroglyphes. Mais ce ne sont que des supercheries que Jean-François dénonce avec hilarité. Il faudra 12 ans à Champollion pour arriver au but. À la veille de ses 18 ans, Champollion tombe amoureux. Ses amours avec Louise Deschamps l'ont occupé au moins 2 années. Mais ils se sépareront en 1809. Après avoir obtenu son doctorat, il est nommé professeur d'histoire naturelle à l'Université de Grenoble. Devant l'Académie, il prouve l'existence de 3 écritures égyptiennes, dont une qu'il nomme hiératique. Jusqu'en 1815, Champollion aura dans sa vie 2 rencontres féminines. La première, Pauline, se termina par une relation épistolaire en 1809. À la veille de ses 18 ans, il tombe amoureux de Louise. Elle est mariée, ce sera une véritable passion qui durera 2 ans. En 1815, alors que Napoléon part pour l'île d'Elbe et que Louis XVIII rentre à Paris, il est consterné. C'est alors qu'il fait une rencontre amoureuse avec Rosine, fille d'un notable. Ils se marieront à la cathédrale de Grenoble. Le ménage restera 6 ans sans enfant. Du couple naîtra Zoraïde. Mais la vraie passion de Champollion, c'est l'Égypte. Inquiété pour ses idées politiques, Champollion regagne Paris chez son frère. Il n'est toujours pas parvenu à la solution du défrichement des hiéroglyphes. De nombreux savants, depuis Harapollon au IVe siècle avant Jésus-Christ, ont tenté des explications. Un jésuite, le père Kircher, au XVIIe siècle, Joseph de Guignes, l'abbé Tando de Saint-Nicolas, le comte Paulin, des savants anglais aussi, etc. À l'origine, les hiéroglyphes représentaient une écriture symbolique. Par exemple, l'eau évoquée par une ondulation, par exemple. Sur la pierre de Rosette, on s'éloignait du symbolisme. Et l'écriture devenait des lettres, ou plus précisément des phonèmes. Les hiéroglyphes représentaient des sons. Champollion est le premier à le comprendre. Plusieurs fois, Champollion s'était approché de la vérité. Avant lui, Sylvestre de Sacy, Aderbad et surtout l'anglais Thomas Young ont cru voir dans le texte de la pierre de Rosette une écriture alphabétique. Tous ont fini par renoncer. Champollion estimait possible d'isoler chaque hiéroglyphe et lui attribuer un son qui correspondrait à une lettre. Par la lecture du texte grec de la pierre de Rosette, on savait qu'il s'agissait d'un hommage de prêtre au roi Ptolémée. Champollion était intrigué par un groupe de signes entourés d'un ovale, qu'on appellera par la suite cartouche. Ce groupe devait représenter un élément plus important que les autres. En fait, il s'agissait du roi, et là, il avait les 8 lettres de Ptolémée. En cette année 1821, l'Angleterre recevait aussi un obélisque provenant de Philae, avec 2 inscriptions. L'une en hiéroglyphe, l'autre en écriture grecque, portant les noms de Ptolémée et Cléopâtre. Cela allait lui permettre d'aller au bout de son raisonnement. Le 14 septembre 1822, il reçoit la reproduction de bas-reliefs de temples pharaoniques envoyés par Huyot en mission en Égypte. Le premier feuillet s'adresse au temple d'Abou Simbel. Il reconnaît un groupe phonétique qu'il a déjà rencontré. Au-dessus, un symbole du dieu soleil. Il sait qu'il se prononce « ré » ou « ra ». Il articule Ramsès, Ramsès, mais tout à coup il articule Ramsès. Il retrouve à plusieurs endroits le nom du pharaon et alors il dit Ramsès, aimé d'Amon. Sur l'autre foyer envoyé par Huyot, il lit le nom d'un autre pharaon, Toutmès. Après cela, il comprend que l'écriture égyptienne possède des signes qui indiquent des sons simples, mais aussi des signes d'idées. L'image vaut pour le son qu'elle évoque. Malgré sa toux persistante due à sa tuberculose, sa fatigue, sa perte de vue suite à des nuits de lecture éclairées par des bougies, Champollion rassemble ses notes, ses documents, et court jusqu'à l'institut où il trouve son frère Figeac. « Je tiens l'affaire, lui dit-il, dans une grande émotion. Ainsi, dynamisé par cette réussite, en quelques heures, il dirige sa présentation « Lettre à M. Dacier » à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Nous sommes fin de ce même mois de septembre 1822. Le monde des savants français est unanime. Les Anglais, eux, sont plus critiques. Et 2 ans plus tard, Champollion publie son précis du système hiéroglyphe des anciens Égyptiens, figuratif, idéographique et alphabétique. Dès lors, le maître veut parvenir à une confirmation. Il tient à vérifier toutes les recherches. Il part pour l'Italie, Florence, Naples, Rome, Turin. Il y a là de véritables trésors de papyrus ramenés par les archéologues. Ainsi, c'est à pas de géant qu'il avance avec bonheur sur la connaissance de la civilisation de l'ancienne Égypte. Il remonte ainsi, grâce à ses papyrus, au XIIe siècle avant Jésus-Christ. couronnement de ses recherches sera son voyage en Égypte le 28 juillet jusqu'en décembre 1829. Le gouvernement français, convaincu de l'importance des découvertes, permet l'organisation d'une expédition scientifique qu'il dirige. Malgré sa maladie, fiévreux, parfois obligé d'être porté, il oublie toutes ses infortunes et, empli d'un bonheur intense, d'ailleurs les paysans l'acclament, ceci d'étape en étape. Il est ainsi conduit à de nouvelles découvertes. Les colonnades, les inscriptions, il ne les découvre pas, mais il les reconnaît. Champollion admire les temples, identifie leurs constructeurs. Les lieux où résida Ramsès le Grand le troublent. À Karnak, là, m'apparut toute la magnificence pharaonique. Nous ne sommes en Europe que des Lilliputiens à côté de ces architectes. En 1831, il fonde la chaire d'égyptologie au Collège de France. Puis, son état de santé se dégrade. La tuberculose, le diabète, la goutte auront raison de Jean-François Champollion qui s'éteint à 41 ans en 1832. L'histoire de Champollion est celle d'un génie passionné. Il n'existe pas de grande réussite sans l'enthousiasme et la foi créatrice. Je vous convie donc à visiter le musée Champollion et les écritures du monde à Figeac. Écritures qui donnent les clés pour structurer la connaissance de notre monde. Il y a bien sûr de nombreux ouvrages concernant la vie et l'œuvre de Jean-François Champollion. Je me suis appuyé sur deux ouvrages, « Histoire extraordinaire » de Alain Decaux, 1994, et celle de Jean Lacouture, « Champollion l'Égyptien », édition du Rocher, à Monaco, 1987. Je vous convie à la prochaine émission, le mois prochain. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.